Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Le nom des plats à travers l'histoire, de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Depuis les temps reculés de la préhistoire au temps de la chasse et de la cueillette, l'homme a reconnu les aliments comestibles et les a donc nommés. Puis avec le feu est apparue la cuisson et les différents modes de consommation, crus et cuits, rôtis et bouillis. Avec la révolution néolithique, l'agriculture et l'élevage ont multiplié les produits, lait, fromage, pain, et enfin avec l'histoire sont apparues la cuisine et la gastronomie. Dès les anciennes civilisations de la Mésopotamie sont apparus des plats définis et des recettes de cuisine. Le temps de la dénomination des plats était venu. La première façon de nommer les plats, qui est toujours en vigueur de nos jours, et de mentionner la nature de l'aliment consommé, son origine et son mode de cuisson. Les tablettes mésopotamiennes nous livrent de nombreuses recettes de bouillon et la façon de préparer les volailles et la cuisson de la viande, souvent bouillie puis rôtie. Cependant, les noms des recettes restent souvent intraduisibles, faute de comparaison. Archestrate, auteur du premier livre de cuisine grecque au IVe siècle avant notre ère, dont les écrits nous sont connus par Athénée, mentionnait déjà le lieu de pêche des meilleurs poissons, les ophies. Larves d'anguilles appelées de nos jours civelles ou pibales doivent venir d'Athènes, le mulet et le loup, bar, de Milet, et le thon de Samos ou de Céphalou en Sicile. Le premier livre de cuisine qui nous soit parvenu dans son intégralité est celui d'Apicius, écrit au 1er siècle de notre ère, qui donne systématiquement un nom, le plus souvent descriptif, à ses recettes. Porcelet au laurier, lentilles au fond de cardon, chevreaux vidés en flûte, etc. Il dénomine ainsi certains plats en fonction de leur origine, saucisses de Lucanie, poulet à la numide. Il cite aussi souvent les condiments et les épices qui jouent un grand rôle dans le goût du plat, lièvre saupoudré de poivre sans sauce, poulet au laser, épices chères et recherchées à l'époque. Mais dès cette époque, quelques noms de plats portent le nom d'un homme, sans qu'il soit facile de déterminer le rapport entre le nom de la recette. Cuisinier, employeur du cuisinier, hommage à un convive ou à un homme important, si tel n'est pas le cas des recettes qui portent le nom d'Apicius, Concilia, Minutale et Patina à la façon d'Apicius, qui porte le nom de l'auteur patricien richissime et gastronome, nous ne savons rien des autres, porcelet à la Frontin, poulet à la Varda ou à la Fronton. Les documents nous manquent ensuite jusqu'au siècle de Charles V, où deux ouvrages, Le Viandier de Taillevent et Le Ménager de Paris, nous renseignent sur le nom des plats. Ces noms sont le plus souvent descriptifs, ainsi dans Le Ménager de Paris, brouet d'anguilles, boussac de lapin, cominet de poulaille. Certains noms ont disparu de notre langue, ainsi cominet désigne un assaisonnement au cumin. Certains plats immémoriaux remontent au Moyen-Âge, même si leur nom a été modifié par la suite, ainsi le haricot de mouton, du verbe haricoter, terme de guerre médiévale signifiant tailler en pièces, est devenu le navarin et le hoche-pot est l'ancêtre de notre pot-au-feu. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les noms de plats furent beaucoup plus emphatiques. De cette époque datent les qualificatifs de royal, princesse, duchesse, marquise et financière. De même datent de cette époque de nombreux plats évoquant les religieux. Outre la religieuse, l'épée de nonne et les sacristains, le homard fut appelé le cardinal des mers au début du XIXe siècle. Mais la principale innovation fut de nommer les plats des grands cuisiniers de l'époque du nom de leur employeur. Ainsi, les apprêts à la du Barry qualifient la garniture de chou-fleur, les bouchers à la reine furent dédiés à Marie Leczinska, épouse de Louis XV, car elle préférait le feuilleté individuel au vol au vent. Les apprêts à la belle vue se rapportent au château de Madame de Pompadour et le potage Saint-Germain au petit pois au comte de Saint-Germain, mais on ne sait s'il s'agit du ministre de la guerre de Louis XVI ou du sulfureux alchimiste. Les garnitures à la Matignon, légumes coupés en menus morceaux revenus au beurre, la purée soubise aux oignons porte le nom de grand seigneur gastronome. La côte de veau à la Champvallon porte le nom d'une éphémère maîtresse de Louis XIV. Plus amusante est l'origine des épigrammes, morceaux de poitrine d'agneau avec côtelette. Une jeune et jolie marquise entendit un jour à un souper un convive raconter qu'il s'était régalé d'épigrammes la veille chez le comte de Vaudreuil. La marquise ingénue demanda à son cuisinier Michelet de lui faire un plat d'épigrammes pour le lendemain. Il ne trouva bien entendu aucune recette ni dans les livres ni chez ses confrères et inventa un plat qu'il nota épigramme. Tout le monde fut ravi. Cette belle histoire est sans doute apocryphe car le célèbre cuisinier Lavarenne en donne une recette en 1651. Louis de Béchamel, marquis de Nointel, ou plutôt son cuisinier, inventèrent la sauce blanche qui porte son nom, la béchamel. Ce marquis, frauduleusement enrichi pendant la Fronde, écrivit la recette en vers, mais elle avait peut-être simplement amélioré une sauce plus ancienne, comme le dit le duc d'Escar. J'avais fait servir des émincés de volaille à la crème cuite pendant plus de 20 ans avant la naissance de ce petit béchamel, et pourtant je n'ai pas eu le bonheur de donner mon nom à la moindre sauce. Si la mayonnaise était connue dès le début du XVIIIe siècle, l'invention du nom mayonnaise reste controversée. On admet habituellement que c'est le cuisinier du maréchal de Richelieu qui aurait inventé cette sauce avec les moyens du bord lors de la prise de Fort Mahon aux Baléares en 1758 pendant la guerre de 7 ans. La mahonnaise serait devenue la mayonnaise. D'autres invoquent la vie de Bayonne, d'où bayonnaise puis mayonnaise. Antonin Carême évoque le vieux nom du jeune d'œuf ou moyeu. L'étymologie la plus drôle, mais a priori apocryphe, est sans doute celle qui la rapporte au duc de Mayenne. Ce ligueur indéfectible aurait mangé, à la veille de la bataille d'Arc, des poulets assaisonnés d'une sauce remarquable. Il en amusa tant et si bien que le lendemain il tomba de cheval et perdit la bataille. Le seul problème est que la première acception du mot mayonnaise remonte à 1806, bien longtemps après tous ces événements. Les noms de plats sont finalement assez représentatifs d'une époque. Si la description des ingrédients, l'origine des produits et le mode de cuisson sont de toutes les époques, la dénomination des plats par des noms qui n'ont que peu de rapport avec la composition des plats est caractéristique d'une époque. Cette tendance sera poursuivie au XIXe siècle par Carême et Escoffier, et la nouvelle cuisine aura également son langage, mais ceci est une autre histoire.